France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Nous pensons bien souvent que nos manières de faire face à la mort ont toujours été les mêmes, que l'on a toujours enterré nos morts dans des tombes familiales, dans des cimetières organisés comme ceux d'aujourd'hui, comme si tout avait déjà existé. En réalité, cette façon de vivre avec les morts est relativement récente. Elle s'est mise en place progressivement au fil de décisions publiques, de transformation de l'espace, d'évolution religieuse et familiale. Les lieux, les gestes, les mots ont changé, et avec eux, la place des morts dans notre société. Alors, d'où viennent ces formes que nous pensons naturelles et qu'ont-elles transformé dans notre manière, dans nos façons même de penser la mort et les morts ? Un invité ce soir pour nous éclairer, Guillaume Cuchet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, co-directeur du Centre d'histoire du 19e siècle de la Sorbonne, et vous venez de faire paraître cet ouvrage passionnant aux éditions du Seuil, intitulé « La religion des morts, comment le 19e siècle a inventé le deuil moderne ». Merci d'être ce soir au micro de France Culture.
Imaginons que notre planète soit détruite par la bombe atomique. Il y a des archéologues et des historiens qui reviennent dans deux siècles. Ils font des fouilles, ils voient la société, ils trouvent les tâches du 19e siècle. Ils disent, mais ces gens-là, c'est très curieux, ils avaient un culte des morts, comme nous pourrions dire aujourd'hui que les Malgaches ont un culte des morts. Il y a bien des édifices, il semble qu'on appelle ça des églises, mais ça doit être des antichambres de ce culte des morts. Le culte des morts a été au 19e siècle la religion populaire de tous les Français. La Mater Dolorosa en crêpe du haut jusqu'en bas, le petit garçon de la bourgeoisie, bien sûr, en violet, parce qu'il a perdu sa grand-mère. Enfin, c'est l'époque où la mort a été la moins acceptée et en même temps la plus étalée. C'est pourquoi, d'ailleurs, on a inventé, un petit peu au début du 19e siècle, et au moment où toutes ces choses-là se sont plus ou moins formées dans l'inconscient, dans l'imaginaire, on a inventé un mot pour dire ça, c'est le mot morbide.
Le ton, la prosodie formidable de l'essayiste Philippe Ariès dans une archive de 1977 sur France Culture déjà. Il nous dit une chose, Philippe Ariès, c'est très curieux, ces gens-là, donc nous en l'occurrence, ces gens-là ont un culte des morts, donc rien de naturel à cela, Guillaume Cuchet ?
Non, alors il faisait allusion effectivement à cette habitude qu'on a prise au 19e siècle d'aller régulièrement dans les cimetières où on est censé avoir des tombes individuelles ou familiales, d'aller porter des fleurs, des couronnes, de nettoyer ces tombes. Tout ça, ce qu'on pourrait croire immémorial, existant déjà sous l'Ancien Régime et qui en fait apparaît au début du 19e siècle, voilà, et qui est un phénomène beaucoup plus récent qu'on l'imagine.
Donc les cimetières même que l'on a, que l'on connaît aujourd'hui, qui sont intégrés à nos villes et derrière à nos campagnes également, ces cimetières-là, avec leurs allées, avec leurs dispositions et leur espace singulier, ça c'est une chose neuve.
Ça date du 19e siècle, c'est-à-dire que c'est très différent de ce qui existait sous l'Ancien Régime, où on enterrait les morts dans les églises, pour l'essentiel, et pas seulement quelques seigneurs.
Hein. On pouvait y mettre
les églises étaient des cimetières, c'est-à-dire qu'on passait son temps à lever des dalles et à enfourner des cadavres dessous, et parfois la moitié d'une communauté, les trois quarts d'une communauté. Donc on mettait les morts dans les églises, on les mettait autour, dans des espèces de cimetières terrain vague, avec parfois des murs qui les délimitaient.
Dans
des grandes fosses communes, le plus souvent, très peu de tombes individuelles et familiales, très peu de monuments, et tout ça était au milieu des vivants. C'est-à-dire que c'était au milieu des villages, des villes, le monde des morts et le monde des vivants étaient juxtaposés. Et tout ça s'était mis en place au Moyen-Âge, et donc cette proximité extraordinaire des morts et des vivants, c'est ce qui va changer au 19e. Au 18e et au 19e, on se met à éloigner ces deux mondes, à les séparer, et on va prendre l'habitude aussi d'avoir des tombes individuelles et familiales. Voilà.
Avant d'entrer quand même avec vous dans le 19e siècle, je voudrais qu'on reste un instant dans l'Ancien Régime. Pourquoi une bascule s'opère-t-elle à ce moment-là ? Quelles décisions sanitaires et politiques, vous allez nous l'expliquer, tentent justement de mettre un terme à ce fonctionnement que vous venez de décrire dans la manière dont on organise l'inhumation des morts ?
Mais il y a tout un débat qui démarre au milieu du XVIIIe siècle. Dans les années 1750-1760, un certain nombre de médecins, de membres du clergé, qui commencent à dire « c'est plus possible de mettre tous ces morts dans ces églises, les odeurs sont épouvantables ». Il faut imaginer ce que ça donnait au mois d'août, hein, tous ces cadavres. On en avait sous les pieds, on en avait au-dessus de la tête, parce que les combles des églises fonctionnaient comme des ossuaires. Donc on stockait des tibias et des crânes sous les toits, on en avait sous les pieds, on en avait tout autour. Donc il y a un certain nombre de gens qui ont commencé à s'alarmer des dangers sanitaires, du problème des odeurs, la saturation aussi, parce que les villes augmentaient en population, donc on ne savait plus où mettre les morts. Et on a imaginé de réformer tout ce système de cimetières issu du Moyen-Âge, jusqu'à ce qu'une ordonnance de Louis XVI, c'est Louis XVI qui lance la révolution anthropologique en 1776 et qui décide de choses, à la fois qu'on arrêtera d'enterrer dans les églises, sauf exception, et que partout où ce sera possible, on transférera les cimetières en périphérie d'agglomération. C'est lui qui lance ça en 1776 et dans les années qui précèdent la Révolution, beaucoup de villes françaises commencent à transférer leurs cimetières, à les éloigner. Alors après, au moment de la Révolution, c'est beaucoup interrogé sur la manière dont s'articulait la Révolution politique et la Révolution anthropologique que le malheureux Louis XVI avait lancée imprudemment peut-être, presque malgré lui. Mais voilà, ça a démarré avant la Révolution. C'est vraiment une mesure de la monarchie administrative finissante.
Vous l'avez dit, hein, Guillaume Cuchet, décision sanitaire, décision politique. Vous avez également expliqué qu'il s'agissait là d'une véritable révolution anthropologique. En quoi ? Comment justement, dans cette décision, retrouve-t-on une transformation profonde de notre rapport aux morts et à la mort ?
Ben on va éloigner les corps morts, on va séparer les mondes des vivants et le monde des morts, comme sous l'Antiquité. C'est-à-dire que l'Antiquité vivait sur le principe de la séparation de ces deux mondes. Et c'est au Moyen-Âge qu'ils avaient fini par se superposer, en partie parce que les gens ont voulu être enterrés auprès des martyrs, puis des saints, qu'on a fait bâtir des églises sur les tombes de martyrs et de saints, que les habitations se sont rassemblées tout autour. Donc sans que personne l'ait vraiment voulu, au départ les chrétiens se coulent dans les structures funéraires de l'Antiquité. Et ça n'est qu'au Moyen-Âge, entre le 7e et le 11e siècle, en gros, qu'on voit naître ce cimetière au milieu des agglomérations de vivants. Et c'est donc vis-à-vis de ça qu'on rompt au 18e siècle, en considérant, surtout pour des raisons médicales, hein, c'est la médecine aériste, on considère que les mauvaises odeurs sont porteuses de corpuscules funestes et expliquent probablement les épidémies encore très fréquentes. Et donc, il y a une sorte de mythologie médicale, en quelque sorte, parce qu'on est très loin d'avoir compris comment tout ça fonctionnait, qui va justifier...
Pestilentiel fait voyager les miasmes.
Ben voilà, c'est la question des miasmes. C'est l'idée que le miasme, c'est pas simplement désagréable aux narines, c'est que c'est dangereux, que c'est porteur d'épidémies. Le grand médecin de l'époque, Vic d'Azyr, qui est le fondateur de la Société de médecine, est très en pointe dans cette campagne et marche de pair avec une fraction éclairée du clergé qui, depuis longtemps, trouve que les morts envahissent les églises, que c'est plus possible de faire des églises des cimetières.
Bon, mais laissons Louis XVI et la Révolution française pour aborder une autre révolution, un texte en particulier, le décret funéraire de 1804. De quoi s'agit-il et que permet-il, couvre-t-il là aussi dans la transformation, notamment le rapport à l'espace que nous avons avec la mort et nos morts ?
Alors ce décret de pré-réal, comme on l'appelle, de 1804, c'est encore le calendrier révolutionnaire qui est encore en place à ce moment-là, a posé les bases de la législation funéraire française jusqu'à nos jours. Hein. Ça reste le texte de référence. On le prend sous Bonaparte, qui va à la fois répéter ce qu'avait dit Louis XVI, c'est-à-dire on arrête d'enterrer dans les églises, on transfère les cimetières, mais qui va ajouter un certain nombre de dispositions nouvelles qui vont jouer un rôle très important. La première, c'est qu'on va décider de vendre des concessions funéraires à ceux qui en auraient les moyens et qui auraient envie d'ériger des tombeaux un peu monumentaux. Il fallait aussi relancer toute l'industrie de la sculpture, la marbrerie, après la Révolution. Donc il s'agissait aussi
de fabriquer un marché, de créer un marché.
Et donc on s'était dit, bon, ben on va vendre des concessions funéraires et les riches feront bâtir des tombeaux. On n'imaginait pas qu'ils devraient être très nombreux parce que il y en avait dans les églises autrefois des tombeaux que la Révolution a détruits massivement. Et donc on imaginait que ça n'irait pas tellement au-delà. Et ce qu'on n'avait pas vu, c'était que la bourgeoisie du 19e siècle allait se jeter là-dessus. Tous ceux qui en auraient les moyens achèteraient des concessions perpétuelles, puis temporaires, feraient bâtir des monuments. Donc ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que les cimetières du 19e siècle vont devenir gigantesques. parce que ces concessions perpétuelles vont geler l'espace. C'est-à-dire que là où on avait enterré les Parisiens depuis Philippe Auguste dans le cimetière des Saints Innocents...
Les plus riches, donc, vont continuer de prendre de la place, même dans la mort.
Donc, être riche, c'est avoir une tombe à perpétuité sur laquelle faire ériger un tombeau, et ça séduit tout le monde. L'autre élément nouveau du crête prairial, c'est qu'on va passer des fosses communes à l'ancienne qui étaient verticales. On empilait les morts sur 5 mètres, 6 mètres, 7 mètres. Désormais, on va passer à la fosse horizontale. C'est-à-dire qu'on va mettre les morts les uns à côté des autres.
Et plus les uns sur les autres.
Et plus les uns sur les autres, de sorte qu'on saura désormais où sont ces morts au cimetière. Sous l'Ancien Régime, il n'y avait personne à aller voir dans les cimetières, parce que d'abord, on imaginait qu'avec des ossements secs stockés dans des ossuaires, que les âmes des morts étaient ailleurs. Inutile d'aller dans les cimetières. Et puis, ils étaient mélangés. Bon, désormais, chacun à sa place, pour une durée limitée, 5 ans, et donc les familles vont pouvoir aller voir leurs morts, ils savent où ils sont.
On peut aller se recueillir désormais sur une tombe.
Aller se recueillir, ce qu'on ne pouvait pas tellement faire avant. Donc cette question de la tranchée commune qui succède à la fosse commune est un élément important. Et puis le dernier élément important, c'est que Bonaparte décide de reconfessionnaliser le cimetière après la Révolution. Il prend acte du fait que la déchristianisation révolutionnaire a échoué, que l'Église catholique a résisté, qu'elle est toujours vivante. Et comme elle est maîtresse en pompe funèbre, qu'on a beau ne pas tellement y croire, c'est elle qui organise les pompes. Donc Bonaparte lui confie le monopole des pompes funèbres, et accepte la reconfessionnalisation des cimetières. Il y a une partie catholique, là où il y a des protestants ou des israélites, on leur donnera également une zone. Donc ça fait partie des principales dispositions du décret de Prairial qui est valable jusqu'à nos jours.
Je reviens à ce que disait un peu plus tôt dans notre échange, au début même de notre échange, à ce que disait Philippe Ariès. Il expliquait qu'au XIXe siècle, il y avait en France une véritable religion des morts qui traversait la société. Comment expliquer justement qu'une part de la société française soit structurée par son rapport aux morts, par son rapport à la mort même? Cela paraît si lointain, à l'inverse du texte de 1804, cela paraît si lointain de ce que nous connaissons aujourd'hui.
Oui, alors lointain sans l'être, c'est-à-dire qu'à la Toussaint, il y a encore beaucoup de monde dans les cimetières. Dans les grandes surfaces, on vous vend des chrysanthèmes. Les Français vont encore assez massivement à la Toussaint dans
les
cimetières.
Ça reste tabou, la mort, tout de même, aujourd'hui, dans notre société.
C'est davantage tabou. Ça a d'ailleurs beaucoup intéressé Ariès, qui a fait une histoire de la mort, qui est une généalogie de ce tabou, en quelque sorte, qui en a cherché les racines lointaines. Mon hypothèse, moi, c'est que si le 19e siècle voit la pratique religieuse reculer, et en revanche, cette religion des morts progresser, c'est qu'il y a eu une sorte de vases communicants, et que la religion des morts est la véritable religion de la sortie de la religion, de la sortie du catholicisme en particulier, c'est-à-dire qu'autant on peut lâcher beaucoup de choses dans la religion, autant la mort reste un peu une sorte de môle d'accrochage de tout le système religieux, et que le mouvement romantique, au fond, c'est une sorte de retour d'affectivité très fort chez des gens qui sont à moitié incroyants, mais pas suffisamment pour en sortir d'un coup d'un seul sans transition, et qui inventent ce qu'ils vont appeler le culte des morts, parce que c'est vraiment une expression issue de l'histoire religieuse du XVIIIe siècle. Il n'y a pas de culte des morts en catholicisme ou en christianisme, les seuls morts dont on a le cul, c'est les saints. Donc ce culte des morts, c'est une expression venue de l'histoire des religions, qui sort en quelque sorte des bibliothèques pour désigner la religion des morts qu'ils vont inventer eux au XIXe, c'est-à-dire cette visite régulière au cimetière avec le fleurissement des tombes. Ça va être le rituel principal, qui n'existe pas sous l'Ancien Régime. Sous l'Ancien Régime, il n'y a pas de fleurs sur les tombes, il n'y a pas de couronne sur les tombes.
Et une autre chose que j'ai apprise en vous lisant, Guillaume Cuchet, et qui m'a vraiment surprise et intéressée, c'est aussi dans ce siècle-là, au cœur de ce siècle-là, que l'on commence véritablement, profondément, même si je puis dire, à prier pour les morts. C'est-à-dire que autrefois on priait plutôt pour les saints, vous l'avez dit, désormais, on tente tout de même d'entrer en relation avec les personnes que l'on a perdues.
Alors on le faisait avant, c'est ce qu'on appelle, c'est lié à ce que les catholiques appellent le purgatoire, c'est-à-dire leur particularité comme chrétien, c'est qu'ils croient pas seulement à l'enfer et au paradis, ils croient qu'il y a une sorte de troisième lieu. Le purgatoire, il n'y a qu'une porte de sortie, c'est le paradis. Quand on est au purgatoire, on finit du bon côté de l'au-delà. Mais en attendant, on passe une période difficile, on souffre. Et donc, la nouveauté du 19e, c'est pas tellement de prier pour les morts, c'est le fait qu'on imagine, ça on le fait depuis le Moyen-Âge, c'est le fait qu'on imagine que ces morts peuvent vous le rendre immédiatement sous forme de grâce matérielle et spirituelle, ce qu'on a appelé la dévotion aux âmes du purgatoire. On prie pour les morts et eux prient pour vous.
Donc un échange.
Il y a une sorte de
boucle, une relation,
de boucle qui boucle. On a d'autant plus de raisons de se mobiliser pour eux, et de sorte que cette croyance issue du Moyen-Âge, le purgatoire, repart plus fort que jamais au milieu du 19e siècle, en même temps que les cimetières sont envahis très régulièrement par des familles, les bras pleins de fleurs et de couronnes. Vous voyez. Tout ça est contemporain et renvoie, je pense, à la même affectivité nouvelle dans le rapport aux morts.
Est-ce que cela transforme aussi peut-être la dimension matérielle de la mort, cette relation que nous pouvons avoir avec ceux qui sont partis? Je pense notamment aux dispositifs matériels que représentent les tombeaux, les chapelles en particulier.
Alors, il y a des nouvelles formes funéraires qui émergent. Il suffit d'aller se promener au Père Lachaise, ici, qui est né en 1804, en même temps que le décret de Prairial.
Qui est ici à Paris, vous voulez dire.
Qui est ici à Paris, oui, pardon, dans l'est de Paris, qui va être le laboratoire, un peu le cimetière laboratoire de cette religion des morts. C'est là que tout va s'inventer, c'est là que les touristes français et internationaux vont venir la découvrir. Et alors, parmi les nouvelles formes funéraires qui émergent, il y a la chapelle funéraire, c'est-à-dire le fait qu'on se fait ériger d'abord des caveaux. D'abord, on achète normalement une tombe individuelle, et puis à mesure que le primo entrant dans la tombe est rejoint par d'autres de la famille, on creuse le sol et on retrouve un principe un peu de superposition des morts, mais à l'échelle des caveaux. Et souvent, sur ces caveaux, on va faire ériger des chapelles. Et ça, c'est complètement nouveau, parce qu'autrefois, les morts étaient enterrés dans les églises. Là, c'est des chapelles de déboîtés de l'église, en quelque sorte, qui vont se multiplier dans les cimetières, et au Père Lachaise, ça finit par créer, tellement elles sont nombreuses et denses, une véritable ville des morts. Balzac, écrit dans les années 1830-1840, décrit ce cimetière du Père Lachaise devenu une ville des morts, avec une densité de bâtis extraordinaire. Et ça, on n'avait pas l'équivalent sous l'Ancien Régime.
Et dans cette relation que les vivants tissent avec les morts, d'autres formes de croyances apparaissent. Je voudrais vous faire entendre une archive de 1959, on y entend l'écrivain Jean Missler qui raconte une séance de table tournante, donc de spiritisme, chez Victor Hugo à Jersey en 1853.
Cette fois, la table commençait à s'agiter. Des craquements, des coups, quiétude. La table épela fille morte. Tout le monde, dit le procès-verbal, pense alors à la fille que Hugo a perdue. L'interrogatoire se poursuit. Qui es-tu ? La table répond, moitié en français, moitié en latin, âme soror, c'est-à-dire âme sœur. On comprend aussitôt que c'était la sœur de Charles et de François Victor Hugo qui était là. Nous sentons tous, écrivacri, la présence de la morte. Tout le monde pleure. Hugo prend alors la direction de l'interrogatoire. Es-tu heureuse ? Oui. Où es-tu ? Lumière. Que faut-il faire pour aller à toi ? Aimer. Qui t'envoie ? Demande Madame de Girardin. Le bon Dieu.
Alors comment explique-t-on, Guillaume Cuchet, même auprès de la famille Hugo, ce succès du spiritisme ?
Alors bon, c'est une mode, ça vient des États-Unis, hein. C'est arrivé en Europe au début des années 1850 et ça a fait fureur, tout le monde a fait tourner les tables frénétiquement pendant 18 mois et puis ensuite ça s'est installé plus largement. Et c'est probablement la scène de spiritisme la plus célèbre de l'histoire mondiale. Hugo était en exil à Jersey, il avait été chassé par le coup d'État fondateur du Second Empire, il pensait revenir sans trop savoir quand, il savait pas que ça durerait 20 ans, il fallait s'occuper en exil. Et une de ses amies, Delphine de Girardin, Ardin lui amène de Paris la dernière mode, c'est-à-dire l'étape tournante, le spiritisme. Il est assez sceptique, il n'y croit pas trop. Et puis, au détour en fin de soirée, Léopoldine, sa fille chérie, morte noyée avec son mari peu de temps après son mariage, sur laquelle il a écrit un nombre de poèmes incalculables, dont ceux qu'on continue de faire apprendre aux enfants
demain
dans les écoles,
Demain des Laubes,
les Contemplations. Et donc, Léopoldine lui remonte par le pied de la table, tout à coup en 1853, conversion à l'émotion. Bon. Et simplement, c'est à la fois extrêmement banal à l'époque, c'est-à-dire que tous les petits bourgeois font la même chose au même moment, et c'est tout à fait contemporain de cette religion du cimetière. Chez lui, c'est même articulé, c'est parce qu'il ne peut plus aller sur la tombe de Léopoldine en France, à Vidquier, qu'il va organiser une sorte de pèlerinage mental sur sa tombe, à travers les Contemplations. Et ce faisant, le livre a eu un tel succès en 1856, les Contemplations, qu'il a en quelque sorte initié associer toute la société française à ce pèlerinage sur les tombes, hein, qui dure encore. Il a fait, au fond, partager à toute la société française ce deuil inconsolable qui était le sien.
Sur la notion peut-être romantique, vous nous le direz, Guillaume Cuchet, sur la notion de regrets éternels. Là aussi, comment les vivants du 19e siècle s'empêchent d'arrêter de regretter la mort d'un être proche?
Oui, alors d'abord, ils achètent des concessions perpétuelles, c'est-à-dire qu'ils sont censés les avoir définitivement, même si les municipalités s'aperçoivent dès 1830-1840 que la perpétuité, c'est leur 30 ans en réalité, ou 40 ans. C'est pour ça qu'on va vendre aussi des concessions temporaires. Mais c'est très important dans le deuil au XIXe siècle, c'est ce deuil romantique, c'est qu'au fond, on promet aux défunts qu'on ne se remettra jamais de leur mort. C'est ça le message. C'est au fond, comme je t'aime, je ne me remettrai jamais de ta mort. On est aux antipodes de ce que nous appelons le travail du deuil, c'est-à-dire cette idée que le deuil est une maladie normale et qu'il faut éviter de trop s'attarder dans ses défilés pour essayer, à cadence rapide, de s'en sortir. Bon, nous, on a l'expression travail du deuil vient de la psychanalyse. C'est une conception du deuil du début du XXe siècle. Eux, au XIXe, ils ont l'idée que le deuil doit exprimer un sentiment sincère et que si on s'aime vraiment, on ne se remet jamais de la mort de l'autre. On lui promet une tristesse éternelle. C'est les poèmes d'Hugo, d'ailleurs. Est-ce que tu vois que je suis triste? C'est ce qu'il dit à Léopoldine quand elle lui remonte par le pied de la table. Vois-tu que je suis triste? Au fond, la preuve de l'amour, c'est la tristesse. Alors que nous, on aurait presque tendance à considérer que la meilleure preuve de l'amour ou de l'attachement qu'on avait, ce serait de se remettre et de continuer à réépouser le mouvement de la vie, finalement, le plus vite possible. Donc là, il y a une bascule qui s'est faite, en fait, dans les années 1960. Si Philippe Ariès, qu'on a cité, invente l'histoire de la mort à ce moment-là, c'est qu'il assiste, dans les années 1960, à la bascule. La fin du deuil romantique, c'est-à-dire « je ne me remettrai jamais de ta mort », et la nouvelle conception du deuil, presque officielle en quelque sorte, qui nous impose de nous remettre tambour battant de nos souffrances. Comme c'est un homme du début du XXe siècle, et qu'il a été encore élevé complètement dans cette religion du cimetière, qui dans la France de l'entre-deux-guerres... Il n'est pas choqué, c'est pas du tout un réactionnaire. Hein. C'était un homme de droite, justement, qui a eu un parcours très étonnant. Non, il n'en est pas choqué, mais comme il connaît cette histoire, il est très surpris de la profondeur de la rupture anthropologique qui se déroule sous ses yeux en quelques années. C'est ça qui est très étonnant, c'est qu'on pourrait penser que le deuil, c'est du très long terme, que les choses évoluent insensiblement. Et de fait, les préparations sont souvent étalées sur le long terme, mais il y a des moments de bascule. C'est-à-dire qu'on pourrait dater presque entre 1963 et 1968, la conception du deuil en France a basculé. Et lui qui connaissait l'avant a pu enregistrer en temps réel la mutation et en mesurer la profondeur.
Et cette bascule, alors, par conséquent, comment l'expliquer? Vous nous en avez expliqué d'autres, celle opérée par Louis XVI, ce texte aussi du début du XIXe siècle. Là, en l'occurrence, cette bascule des années 60-70, le rapport tout à fait nouveau que nous entretenons au deuil, d'où vient-il?
Eh bien, c'est un peu difficile à dire. C'est justement, je pense que ça procède de plusieurs raisons, mais il y a à la fois une nouvelle conception du deuil, cette idée que le deuil doit être invisibilisé, discret, personnel. On voit disparaître les tenues de deuil, par exemple, ces tenues très spectaculaires du 19e siècle, mais elles étaient encore en France, en place dans les années 1950. Donc, les tenues de deuil disparaissent, à la limite, on ne garde plus qu'un brassard de crêpes discret. Les corbillards, parce qu'au 19e siècle, la ville passe son temps, la circulation est arrêtée en permanence par des corbillards qui sillonnent la ville, qui sont corbillards hippomobiles, avec des cortèges derrière qui marchent au pas de l'homme. Donc, les chevaux marchent au pas de l'homme. Et ces corbillards traversent, arrêtent la circulation en permanence. Tout le monde s'arrête, à Paris encore dans les années 1920-1930, tout le monde s'arrête, les hommes se découvrent, les femmes se signent, croyants ou incroyants. C'est-à-dire que c'est ça la religion des morts, c'est que c'est une religion ouverte aux croyants comme aux incroyants. C'est en ça que c'est, à mon avis, le consensus le plus fort de la société française jusque dans les années 60.
La grande tendance contemporaine, c'est évidemment la montée de la crémation, cette fois-ci qui prend le pas petit à petit sur l'inhumation. Là aussi, qu'est-ce que cela raconte, cette bascule, peut-être plus progressive celle-ci ?
Plus tardive surtout. En fait, la crémation, on en a beaucoup discuté pendant la Révolution française. Sous la Révolution française, qui était fascinée par l'Antiquité gréco-romaine, on faisait tout comme les Grecs et les Romains. Et du coup, on s'est dit, mais après tout, les Grecs et les Romains brûlaient leurs morts, on pourrait faire pareil. Donc, les révolutionnaires en ont beaucoup parlé, sous le Directoire notamment, mais ils ont brûlé personne. Il y a eu un représentant en mission de la Convention qui a été brûlée à Montpellier, mais c'est le seul. Mais on en a beaucoup parlé. Ça a été légalisé en 1887, sous la Troisième République, laïque, qui a fait passer toute une batterie de lois laïques à ce moment-là. Donc c'était désormais légal. On a construit le premier crématorium français au Père-Lachaise en 1889. On l'a caché dans une église néo-byzantine avec une sorte de minaret qui permet à la cheminée de remonter. Mais jusque dans les années 1970, personne en France ne se fait incinérer. Quand le pape... les papes sont très hostiles. Hein. Les papes, le pape Léon XIII condamne la crémation. Et le pape Paul VI, en 1964, dit, bon, ben, réflexion faite, en fait, les catholiques peuvent, dans certaines circonstances, avoir recours à la crémation. Mais à cette date, donc en 1964, quand le pape Paul VI l'autorise, 0,2% des défunts sont incinérés en France chaque année. C'est légal depuis 1887, mais personne ne se fait incinérer. La barre des 1% est franchie en 1980. C'est-à-dire que c'est un décollage qui date des années 80. Des
Et
années
aujourd'hui, d'un mot ?
Aujourd'hui, 40-45%, plus de la moitié dans les grandes villes. C'est-à-dire que c'est une révolution considérable, dont chacun sent bien qu'elle doit avoir une signification profonde, comme souvent ces révolutions-là, sans trop savoir laquelle, à vrai dire.
Merci beaucoup, Guillaume Cuchet. La religion des morts, comment le 19e siècle a inventé le deuil moderne. C'est l'ouvrage que vous faites paraître aux éditions du Seuil. Et je remercie aussi très très chaleureusement toutes celles et ceux qui ont pensé et fabriqué cette émission à mes côtés. Rodi Eken, Bruno Barada, Bertie Bourdon à la réalisation, Léa Racine.